Bonjour à toutes et à tous, au micro Serge Bounic du groupe Tisse-Lettres de l'Académie d'Orléans-Tours. J'ai le grand plaisir de vous retrouver, fidèles auditeurs, à l'occasion de cette 14e émission des Souris et des Lettres. Aujourd'hui, diffusée depuis le studio du CRDP d'Orléans, que nous remercions pour son accueil toujours attentionné. Ce nouveau rendez-vous radiophonique est parrainé par Madame Pinsard, IPR de Lettres, et elle est pilotée avec passion et efficacité par Adeline Buisson et Philippe Godiveau. Vous pourrez également écouter les interventions d'Angélique et de Baptiste Voisin, de Marie Pourriot, d'Olivier Capès, de Clément Bigot et de Christelle Delasse. Et comme elle possède tous les dons, Christelle est également à la technique pour assurer la réalisation de notre émission. En tant qu'enseignants, que parents, mais aussi en tant que citoyens, nous croyons tous autour de cette table que la lecture est un élément essentiel du développement de l'individu, et donc des élèves qui nous sont confiés. Mais cette idée n'est plus si évidente dans une société dont le rythme, les valeurs, la culture ou les loisirs sont de plus en plus influencés par des modes de communication qui évoluent très vite et révolutionnent les échanges. Comment adapter la lecture de textes longs à notre temps? C'est la question difficile que nous nous sommes posée en recherchant, selon les rubriques, à approfondir certains aspects de son approche théorique ou à envisager la lecture comme un enjeu concret de notre pratique de professeur de lettres. C'est pourquoi nous nous efforcerons, autour de ce micro, de trouver les outils pour donner le goût de lire. Et je vois déjà l'œil d'Adeline s'illuminer, car elle n'est pas du genre à aborder les difficultés dans la morosité. Au liqueur donc, voilà l'édito d'Adeline Buisson.
Merci Serge, bonjour chers auditeurs. Alors j'ai récemment pris le tramway et j'ai entendu une conversation intéressante entre deux personnes qui parlaient des jeunes et de la lecture. Oui, parce qu'en fait j'ai une confession à vous faire, j'adore laisser traîner mes oreilles quand je me laisse bercer par les transports en commun. Alors j'entendais, les jeunes ne savent pas lire, ils ne lisent plus, la faute au téléphone, la faute aux ordinateurs, forcément. Cette conversation interroge, bien sûr qu'ils lisent nos élèves, les chiffres sont nets, chez les enfants de 11 ans. 33% disent lire un livre tous les jours pour leur plaisir. C'est un fait, ils lisent moins à l'adolescence. Mais le numérique n'y est absolument pour rien. Et j'ajoute même, avec la passion et la conviction que nous partageons tous ici, enseignants de lettres, que le décrochage de la lecture n'est pas une fatalité. En quelques phrases, je vous propose de mettre fin à quelques légendes urbaines. Première légende urbaine, l'adolescence est la période de décrochage de la lecture. Oui, c'est vrai, mais elle l'a toujours été, avant même l'invention de l'ordinateur, et c'est un phénomène qui s'accentue depuis les années 60, bien avant l'avènement du numérique. Deuxième légende urbaine, on vend moins de livres. Oui, c'est vrai, mais la baisse d'achat de livres ne signifie pas automatiquement la baisse de la lecture, dont l'acte lui-même est finalement très difficile à mesurer sur l'écran. Et enfin, pour un adolescent, la lecture, c'est ringard. Et là, je vous renvoie à cet article du Point de septembre 2012, dont vous trouverez les références dans les documents d'accompagnement. Cessons donc de dire, s'il vous plaît, que les jeunes lisent moins à cause du numérique. Et soyons précis, disons plutôt qu'ils lisent moins sur un support et plus sur un autre. Ils lisent sur tablette, ils lisent sur smartphone ou sur ordinateur. Le numérique est loin d'être un monstre qui engloutit le livre. Et au contraire, voyons plutôt le numérique comme un moyen extraordinaire de développer le plaisir de la lecture. En revanche, il y a bien une difficulté que nous cherchons jour après jour à lever. Et cette difficulté est bien celle de la lecture de textes longs. Et c'est d'ailleurs le sujet central de notre émission d'aujourd'hui. Cette génération d'élèves est la première à maîtriser un ensemble de supports de lecture, et ce depuis leur plus jeune âge. On voit bien que les ventes de tablettes, par exemple, et d'applications de livres pour enfants à partir de 2 ans ont explosé depuis l'an dernier. Le rapport au livre imprimé en tant que support a perdu, je crois, sa valeur symbolique. L'adolescent vit de plus en plus dans un monde dématérialisé et dont l'univers culturel est finalement organisé autour de l'audiovisuel. D'un autre côté, il acquiert de plus en plus de compétences, des compétences de polyactivité, même les garçons, et de lecture flash, qui ne correspondent pas aux compétences de lecture de textes longs. À l'aide des précieux conseils et des témoignages que mes éminents collègues vont vous confier tout au long de l'émission, servons-nous du numérique, justement, pour attiser ce goût de la lecture d'œuvres intégrales. Et je rends la parole à notre animateur préféré, avant qu'il ne m'arrache le micro, tant la passion de la lecture m'habite.
Les souris
Et oui, avec une élève comme Adeline, je n'aurais guère de mérite à proposer des titres de romans, d'essais, de pièces de théâtre, car je sais que je parviendrai à piquer sa curiosité, quitte parfois à être contesté dans mes choix. Et je ne m'en plaindrai même pas, car c'est précisément ce dialogue critique que nous souhaiterions entretenir avec nos élèves à partir des œuvres que nous leur proposons. C'est alors que les deux provocateurs du groupe veulent s'emparer du micro. « Allons, Serge, tes élèves ne lisent pas comme toi », me glisse-t-il à l'oreille d'un air moqueur. « Mais s'ils ne lisent pas comme moi, que lisent-ils ? Comment lisent-ils ? Comment puis-je adapter mes pratiques de professeur sans renoncer à des attentes ou des valeurs que je juge essentielles ?» Et là, vous ne pourrez pas échapper à ces questions et à bien d'autres auxquelles vous allez devoir répondre, Baptiste et Marie. Car je vous laisse maintenant la parole dans la rubrique intitulée « Le sujet du jour ».
Merci Serge. Alors avec Baptiste, la première question que nous nous sommes posées, c'est « Qu'est-ce qu'un bon lecteur pour nous enseignants de français ?» Alors je suis partie de constat tout simplement et en fait il m'a semblé que pour l'enseignant, un bon lecteur, c'est un élève qui lit toutes sortes d'œuvres, qui lit en grande quantité et qui comprend le texte et en découvre l'implicite. Alors finalement, à bien y réfléchir, j'ai eu le sentiment qu'on essaie de faire de nos élèves des lecteurs qui nous ressemblent. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Baptiste ?
Effectivement, et moi je me suis posé la question un tout petit peu différemment. Je me suis demandé si moi-même, j'étais un bon lecteur à leur âge. Est-ce que je correspondais à l'image que j'en ai maintenant ? Eh bien, c'est pas sûr du tout. Et en tout cas, c'était certainement pas tout le temps le cas. En fait, est-ce qu'on a une idée si objective du lecteur que nous étions ? Et à quel lecteur d'aujourd'hui nous comparons-nous finalement ? Ils sont peut-être moins différents de nous qu'il n'y paraît, et c'est des informations que nous rappelle Philippe Coulangeon, sociologue, notamment en rappelant que les adultes ont toujours ressenti une panique et une nostalgie face à la lecture des adolescents. La baisse du niveau scolaire, effectivement, elle est clamée depuis 1870, pardon. Mais il faut relativiser évidemment cette nostalgie et cette panique, puisque l'école a beaucoup changé, tout le monde n'allait pas à l'école, et puis les nouveaux médias ont toujours créé ce genre d'inquiétude, qu'il s'agisse de la radio à ses débuts, la télévision, et puis aujourd'hui donc effectivement Internet, pour lequel on entend toutes sortes de qualificatifs, hein, machine à décerveler, poubelle du monde, etc. Donc peut-être qu'il s'agit moins d'un déclin particulier de la lecture des jeunes, plus d'une impression, qui finalement est liée à une différence de génération. Et le problème, s'il existe, vient peut-être plus d'un certain resserrement des types de lectures romanesques, accompagné, il est vrai, d'un éclatement des lectures autres, que notre culture de lecteurs devenus experts aujourd'hui n'a jamais vraiment considéré comme de la lecture vraie.
Oui, tu as raison. Alors, je me suis penchée sur ce que lisent nos élèves et sur la manière dont ils lisent. Alors la lecture, en fait, comme beaucoup d'activités, évolue au fil des modes et j'ai trouvé un article de l'Express où Isabelle Lortolari explique, je la cite, que les adolescents lisent pour appartenir à une tribu. L'identité de l'auteur est très peu repérée. Ce qu'il est, en fait, elle explique que c'est le genre et la collection. Donc, quand les adolescents découvrent un premier tome qui leur plaît, ils achètent et consomment la série sans aller voir ailleurs. En ce moment, la mode, c'est une littérature de genre très codée, fantastique ou fantasy à 95%. Alors je me suis aperçue également que le mode de lecture a changé. La génération d'élèves actuels lit autrement. Et avec Internet, puisque tu l'évoquais tout à l'heure, s'est développée la lecture hypertextuelle. On passe donc d'une page à l'autre, d'un paragraphe à l'autre. Et ce n'est plus la lecture linéaire telle que nous, on l'a connue, c'est-à-dire du début à la fin.
Alors je crois qu'effectivement, je reviens sur ce que tu dis, il ne faut pas se voiler la face. Les écrans font changer la lecture. Et de façon profonde et peut-être même préoccupante, en tout cas, il faut s'y pencher. L'acte même de lire se modifie et semble avoir un impact sur la mémorisation et sur l'apprentissage. Je me suis intéressé notamment aux conférences de Thierry Bacchino, qui est professeur de psychologie cognitive des technologies numériques, et il met en avant des modifications liées à la lecture sur écran qui m'ont semblé vraiment intéressantes. Alors certes, on reprend des choses qu'on connaissait déjà ou qu'on imaginait. Par exemple, le problème de la lumière liée au rétroéclairage qui abîmerait, enfin qui fatigue, qui provoque une fatigue visuelle importante. Mais également le mode de présentation sur écran qui est dynamique et qui n'est plus statique par rapport au mode de présentation sur une page. Le type de lecture qui passe du linéaire au non linéaire sur écran. Et effectivement également la différence entre les sources d'informations qui sont extrêmement redondantes et répétitives sur un écran. En fait, pour aller vite sur écran, la prise d'information visuelle, elle est dégradée. Alors ça, c'est prouvé scientifiquement. Et elle est multipliée également, le temps est multiplié par 25%, parce qu'il y a plus de fixation nécessaire pour arriver à lire une même page. Le défilement, donc le scrolling, pose également certains problèmes. Ce défilement vertical empêche le lecteur de se fixer dans l'espace. La mémoire spatiale des mots est perturbée, et donc la lecture est également moins efficace, en tout cas la lecture telle que nous l'entendons, lecture longue, lecture romanesque. L'organisation des informations, le problème du tri des informations, tout cela est extrêmement complexifié sur un écran, alors qu'il faut quand même rappeler que notre cerveau n'a pas évolué du point de vue de la ségrégation visuelle depuis 3500 ans. Notre cerveau n'a pas évolué, donc les modes de lecture qui lui sont proposés sont de plus en plus compliqués. Un contenu avec hypertexte, on le sait, n'est utile que si on connaît déjà le sujet. Si on ne connaît pas le sujet, on s'y perd. On perd le fil. Le problème est lié à une désorientation donc cognitive ou une surcharge cognitive. Et sur le web, la lecture devient plus un écrémage qui est, voilà, c'est de la recherche d'informations. Le développement de stratégies de lecture sélective est supérieur à des stratégies plus profondes de lecture attentive telles qu'on les attendrait. Et puis, plus inquiétant et plus surprenant pour moi, en tout cas, il y a vraiment une modification cérébrale. Le fonctionnement du cerveau est différent lorsqu'on lit sur un écran. Les activations des zones cérébrales ne sont pas les mêmes. C'est la zone frontale qui est activée, celle de la prise de décision sur écran, alors que ce n'est pas le cas sur une lecture papier. Voilà. Dernier élément intéressant, me semble-t-il, c'est le fait qu'Internet remplace la mémoire du lecteur, que ce soit un lecteur de roman ou un lecteur même d'informations autres. Le lecteur, aujourd'hui, sait où trouver l'information, mais il ne sait pas finalement quelle est l'information. Alors c'est un peu caricatural, mais c'est dans cette voie-là que les études de Thierry Bacchino m'ont porté à voir les choses. Donc pour conclure, il y a une grande variabilité des comportements de lecture, ça c'est certain, elle a toujours existé, mais sur les écrans, elle est accentuée, clairement accentuée cette variabilité des comportements, et donc les difficultés sont accentuées également. Ces études tendent donc à prouver que le changement de support utilisé pour la lecture a pour conséquence une mutation de la lecture elle-même, qui, si elle n'est pas inférieure à la nôtre en termes de quantité, laisse entrevoir une baisse de l'autonomie du lecteur et de son efficacité. La lecture devient fragmentée, procède par prélèvement, rompt avec la tradition élitiste de la lecture savante, immersive et solitaire, et signe peut-être l'avènement de la lecture sociale qui serait pratiquée en réseau, en partage. Et nous, notre problème d'enseignant, finalement, ça devient alors comment les amener à goûter la lecture telle que nous l'entendons. Comment les guider vers ce moment unique, finalement, ce spectacle, d'autant plus extraordinaire qu'il est exclusivement réservé à n'importe qui. Au lecteur, je m'emballe un peu, mais il y a quand même un peu de ça.
Oui, donc en fait, je crois que s'installe une différence entre ce qu'ils lisent, la manière dont ils lisent, et ce que sont nos attentes. Qui n'a effectivement jamais entendu à l'annonce d'une lecture imposée « Madame, combien il y a de pages ? Il va falloir tout lire ?» « Oh, c'est nul, j'aime pas lire. » Alors, tout de suite, l'activité lire pose un problème. Comment réussir à amener les élèves à entrer dans l'œuvre avec envie, plaisir, et non contrainte et résignation. L'enseignant doit aiguiller les élèves, les guider pour redécouvrir ou découvrir le goût de lire, sonder un texte comme s'il s'agissait d'une enquête. Alors j'ai fait quelques recherches et j'ai découvert un logiciel qui s'appelle Ideographics, qui m'a semblé un outil intéressant pour accompagner les élèves dans la découverte du texte. Effectivement, ce logiciel permet à l'enseignant de travailler sur le texte qu'il a choisi. Il a donc la possibilité de le décomposer, de le visualiser, de rechercher et faire ressortir les éléments significatifs, alors qu'ils soient de nature sémantique, de nature syntaxique ou morphologique. Et ensuite, il peut proposer un ensemble d'exercices d'entraînement afin de systématiser les apprentissages et les mettre au service de comportements de lecture individualisés. Alors à ce sujet, dans un article des Cahiers pédagogiques, Béatrice Coutelet, Jérôme Dinet et Jean-François Rouet se sont intéressés à l'approche cognitive de la lecture finalisée à l'école et au collège. Et voici leurs conclusions. Alors déjà, il rappelle le discours majoritaire des enseignants. Je les cite. « De plus en plus d'élèves ont des difficultés à comprendre ce qu'ils lisent. » Alors voici leur conclusion. La plupart ne sont pas à proprement parler de mauvais lecteurs, mais leurs difficultés viennent des exigences de plus en plus fortes des situations de lecture qui leur sont proposées. Plus précisément, la lecture finalisée, typique de l'enseignement secondaire, fait appel à des stratégies de lecture particulières que beaucoup d'élèves ne possèdent pas encore à l'entrée au collège. Alors ainsi, il apparaît nettement que si l'enseignant veut réussir à redonner le goût de lire et lever l'obstacle de la lecture, il doit aménager des séquences pédagogiques qui soient consacrées à la compétence comprendre, sans aucun autre enjeu. Il est possible d'instaurer des exercices simples, mais répétitifs, qui demandent à l'élève de se concentrer sur la compréhension du sens à partir de textes familiers, par exemple, pour ne pas surcharger la difficulté. Le professeur peut, par exemple, instaurer une démarche répétitive à chaque fois qu'il abordera un nouveau texte. Donc, en même temps que les élèves le découvrent sur papier, le texte peut être projeté au tableau, un exercice simple peut être mis en place, identifié au moyen de couleurs fixées dès le début de l'année. Par exemple, si on a un TBI, on peut utiliser le surlignage, les éléments clés de l'extrait. Ainsi, en même temps que les élèves font la démarche de découvrir le texte, la lecture analytique va se mettre en place au tableau.
Oui, c'est vrai, et ce que tu montres permet de donner du sens au texte classique en particulier, mais la tâche est rude, car on peut que constater cet essor des lectures dites utiles au détriment, comme on le disait tout à l'heure, des humanités classiques, autrefois portées par l'institution et l'école. Ce phénomène, le sociologue Bernard Lahir le qualifie de perte de foi artistique et littéraire. Les mutations donc, qu'on observe semblent si profondes qu'elles touchent aussi la lecture plaisir, pas seulement la lecture scolaire. Selon Jean-Charles Fitoussi, qui est éditeur numérique, qui développe notamment des textes qu'on peut lire sur téléphone mobile, le livre est aujourd'hui dilué dans un monde de fiction, mais des fictions très puissantes, souvent globalisées, qui investissent différents médias, comme les films, les séries, les jeux vidéo, et sur différents supports, et également dans différents univers. Les adolescents pratiquent ces fictions sous un nombre croissant de formes et de dimensions. C'est vraiment quelque chose de presque impalpable et qui sous-tend leur vie imaginaire. Dans ce contexte, qu'en est-il de la lecture, finalement, comme accès au récit ? Comment la lecture se coûte-t-elle aujourd'hui à d'autres pratiques dans l'univers adolescent et quels repères culturels se construisent ? Eh bien, l'une des réponses qui peut être envisagée, c'est peut-être le roman interactif, qui constitue une évolution possible. Il est conçu spécifiquement pour le numérique. Par exemple, il existe l'un des premiers romans interactifs qui est géolocalisé. Il est paru en 2012 et se passe à Paris et permet au lecteur, lorsqu'il se trouve au même endroit que l'action du livre qu'il est en train de lire, d'atteindre des détails supplémentaires sur l'histoire, de choisir la suite qu'il veut lire. Ça rappelle un peu les livres dont vous êtes le héros, hein, qui sont effectivement peut-être plus du domaine du jeu que du domaine littéraire. D'autres exemples sont commercialisés. Le lecteur doit par exemple trouver le lien sur la page pour pouvoir passer à la suivante. Le texte peut être accompagné d'une bande sonore. L'auteur inclut éventuellement dans son livre des musiques accompagnant le texte, des illustrations animées. Ce qui compte alors semble être plus la fiction que le texte. Et peut-être touchons-nous ici à des exemples finalement de surcharge cognitive tels que nous l'évoquions tout à l'heure. Et puis surtout, s'agit-il du même type d'univers fictionnel que celui qui était construit uniquement par les mots? Sans doute pas. Mais notre rôle d'enseignant de lettres s'enrichit, j'en suis certain, certainement plus qu'il se perd dans ses usages multiples et changeants de l'écrit.
Les souris et les lettres.
Vous savez, fidèles auditeurs des souris et des lettres, que nous avons voulu, depuis le début de cette année radiophonique, approfondir la réflexion sur le thème abordé en vous proposant l'analyse d'un ouvrage consacré à celui-ci. Cette fois, c'est notre ami Olivier Capès qui vous propose l'analyse d'un essai de Mila Douéhi intitulé « Pour un humanisme numérique ». Il faut bien avouer, Olivier, qu'un tel titre construit sur une sorte d'oxymore a de quoi surprendre, voire provoquer, avec d'un côté humaniste, qui se réfère au fondement même de notre culture, envisageant le savoir tiré des livres comme la source de ce qui rend l'homme meilleur, et de l'autre, le numérique, une technologie récente que certains accusent précisément de déshumaniser notre monde. Comment l'auteur parvient-il à lever cette apparente contradiction ? C'est ce qu'Olivier va nous révéler dans ses notes de lecture.
Bonjour à tous. Je voudrais partager avec vous aujourd'hui quelques idées de lecture sur l'ouvrage de Mila Douéhi pour un humanisme numérique paru au Seuil en 2011, également disponible en version numérique chez Publinet. Historien des religions et actuellement titulaire de la chaire de recherche sur les cultures numériques à l'Université Laval au Québec, Mila Douéhi s'intéresse depuis plusieurs années à l'avènement du numérique et à son influence sur la culture. À l'aune du temps Internet, le contenu de cet ouvrage date déjà un peu, mais son auteur a poursuivi depuis les recherches dont il rend compte ici et multiplie ses interventions dans la même veine. Dans ce livre, Milad Douaï ne se positionne ni comme promoteur de la chose numérique, à l'instar d'un Michel Serres, ni parmi les anti, souvent plus transis de peur que motivés par des craintes justifiées. À partir d'un simple constat, en ce début du 21e siècle, le numérique a envahi nos vies d'une façon qui le rend aussi inéluctable qu'indispensable, il s'intéresse à tous les aspects des nouvelles interactions induites par l'irruption du numérique. D'une part, les relations de l'humain avec les objets numériques eux-mêmes, et d'autre part, les nouvelles modalités, sans oublier celles qu'il modifie en tant que médium et que le numérique permet, développe ou impose dans les échanges entre la minorité agissante, aujourd'hui minorité, mais en passe de devenir une majorité aussi écrasante qu'absolue, minorité donc des humains connectés. Cette perspective permet à Milad Douaï d'aborder des sujets aussi variés et a priori peu attendus que la poésie du code, l'amitié numérique ou la vision de la culture numérique comme ontologique. Ce qui n'est pas sans rappeler une récente et très intéressante diffusion de l'émission Place de la Toile sur France Culture, dans laquelle l'immarcessible Xavier Delaporte recevait le 18 janvier dernier le médiéviste Patrick Boucheron. On retrouvera sur le site internet de l'émission les références de cette émission qu'on peut écouter en ligne ou télécharger. Mais revenons à l'humanisme numérique. La vision de Milad Douaï, ancré dans une pensée qui s'appuie sur la philosophie antique d'Aristote, l'humanisme des XVIe et XVIIe siècles, et empruntant aussi bien à Vico et Descartes qu'aux plus modernes Lévi-Strauss et Mandelbrot, se veut foisonnante et analytique. Lorsqu'il aborde la problématique des réseaux sociaux et de Facebook, par exemple, il ne manque pas d'en explorer, au moment où il écrit, des problématiques qui sont aujourd'hui dominantes sur la sécurité des données personnelles et le droit à l'oubli. Et lorsqu'il analyse l'avènement des applications qui bousculent la vision logicielle de l'informatique aujourd'hui métamorphosée en numérique, même à quelques dizaines de mois de distance, Milad Douaï manque peu de cibles de nos questionnements d'aujourd'hui entre protection de la vie privée et Internet des données. Au final, la résonance de la vision humaniste que Milad Douaï dévoile dans cet ouvrage nourrit chez le lecteur plus de questions que de réponses, mais nourrit surtout une réflexion en profondeur sur les tenants et aboutissants de l'avènement du numérique et de son influence encore largement inexplorée dans la pédagogie dont nous faisons métier. Pour aller plus loin, on trouvera sur le site de l'émission d'autres ressources, notamment celles mises à disposition par les NESR, avec entre autres la conférence prononcée par Milad Douaï lors du colloque e-formation de mai 2013 et une émission récente de la web radio de les NESR qui met en présence Milad Douaï, Antonio Casilli de l'EHESS et Francis Juré-Guibéry de l'Université de Pau.
C'est Philippe Godiveau qui se charge aujourd'hui de la quatrième rubrique intitulée « Ils n'apprennent plus comme avant ». Ils, oui, ce sont bien nos élèves, de vos élèves qu'il sera question ici. Et Philippe, je crois que tu n'as pas choisi la facilité en te demandant ce qu'est un bon jeune lecteur en ce début du 21e siècle. Pour dresser un tel portrait, il faudrait s'éloigner, me semble-t-il, des a priori qui circulent dans la société, et même parmi nos collègues, pour fonder la réflexion sur des données solides, mesurables. Qu'en penses-tu, Philippe ?
Eh bien, Serge, une fois n'est pas coutume, pour faire le portrait de ce jeune lecteur du 21e siècle, je vais m'appuyer sur une enquête de septembre 2013 sur les usages du livre numérique. Entre autres informations, elle nous apprend qu'en une année, la lecture de livres numériques a progressé d'un point, que la pratique des lecteurs d'œuvres du numérique s'intensifie. Le paysage, tu le vois donc, n'est pas aussi gris qu'il y paraît.
Néanmoins, Philippe, j'entends déjà de ci, de là, les récriminations de nos collègues et leurs constats pessimistes sur la lecture.
Ouais, tout à fait d'accord avec eux, Serge. Cependant, je vais tenter ici de les aider en parcourant des yeux trois horizons. Le premier consistera à définir précisément la situation de notre jeune lecteur du XXIe siècle. La deuxième interrogera ce fameux mot « lecture ». Enfin, à l'instar de Michel Serres, je proposerai une définition nouvelle de l'illettrisme. Alors, la première idée que je souhaiterais développer consiste à conjuguer le mot « lecture » au pluriel. Certes, l'enseignant de lettres, comme le disait tout à l'heure Baptiste, a une idée claire de ce qu'est la lecture. Parcourir un roman, dont la richesse d'écriture nous amène vers une réflexion sur le monde qui nous entoure. Cette vision, héritée du XIXe siècle, pousse alors à affirmer que nos jeunes élèves ne lisent plus. Et ce raccourci, j'ose le dire, est faux. Nos élèves n'ont jamais tant lu. Des messages courts, de type SMS, des mails, des pages internet, des quotidiens en ligne, et tant d'autres. Et nier ces formes de lecture revient à nier ce que nous-mêmes, enseignants, faisons régulièrement. Nous parcourons la une d'un journal, nous lisons en diagonale, avouons-le, l'ordre du jour d'une réunion, et tant d'autres. Derrière le mot « lecture » se cache en réalité la lecture intégrale, la lecture fragmentaire, la lecture de survol.
Oui, mais Philippe, tu conviendras que ce sont ces deux dernières facettes de la lecture qui concernent principalement nos élèves.
Certes, Serge, mais il me semble qu'il faut avant tout casser une certaine image d'Épinal et revoir notre approche de la lecture. Faut-il condamner cette lecture butinage, comme l'appellent certains chercheurs ? À mes yeux, non. Mais il faut partir de cette compétence pour éduquer le regard de nos collégiens et de nos lycéens, pour leur apprendre à poser leur attention, à appréhender des textes qui sont différents de ceux qu'ils fréquentent quotidiennement. Il faut enseigner la lecture et pas simplement les textes pour redonner à cette activité un temps et un espace. Car un autre problème qui se pose à nos collègues réside dans le fait que nos élèves cèdent, mais comme nous tous, à un besoin d'immédiateté. Nous voulons disposer d'une idée et de ses implications dans la seconde. Or, toute bonne lecture demande un temps d'accès à la ressource, associé à un temps d'assimilation, voire de relecture. Cela demande ce qu'Alain Giffard, auteur en 2009 d'une étude sur les pratiques culturelles du numérique, appelle des vacuoles de silence, c'est-à-dire un temps donné à la réflexion sur le texte. Tout le monde conviendra de cette nécessité, mais reste à la mettre en œuvre. Dès lors, cela interroge le temps pédagogique. En effet, pourquoi proposer la découverte d'un texte en classe ? Pourquoi ne pas la prévoir avant et à l'aide d'un forum, d'un blog, d'un wiki, que sais-je ? Collecter les réactions des élèves et s'en servir de point d'appui pour construire le cours. Ce dernier devient alors cette fameuse vacuole où l'enseignant a du temps pour enseigner la lecture. Ce principe s'appelle la classe inversée et favorise grandement la stratégie d'appropriation des textes. Car qu'est-ce que lire ? C'est avant tout et par-dessus tout partager ses impressions, ses émotions, ses idées. Au problème de l'intériorité de la lecture a fait place celui du partage, un terme très à la mode sur les réseaux sociaux.
Allons Philippe, tu soutiens que la lecture en ce début du XXIe siècle dépend d'un simple phénomène de mode ?
Mais non, mon cher éminent collègue, ce n'est pas le message que je souhaite faire passer. Mais à travers l'utilisation des outils que j'ai cités, le jeune lecteur, notre lecteur du XXIe siècle, va retrouver des pratiques personnelles et les mettre au service de son apprentissage. Le problème n'est pas technique, mais se situe dans la définition de ce qu'est un livre aux yeux de ce jeune lecteur. Pour lui, il n'est pas l'objet d'un individu, mais d'une communauté interprétative. Ce ne sont plus le professeur, le libraire qui conseille, mais les médias ou les pairs. Le livre n'est plus l'objet de la traditionnelle fiche de lecture, enfin d'ailleurs ne l'a-t-il jamais été. Il doit devenir, à l'aide des outils numériques, un sujet de réflexion, de partage, ce qui lui redonnera sa polysémie, sa richesse. J'aimerais conclure sur une dernière piste concernant la notion de l'illettrisme. Partons de la définition traditionnelle du mot, on pourrait croire que nos jeunes élèves n'en sont quand même pas là. Cela est vrai, sauf à considérer leur situation. Ils sont placés face à un espace documentaire incontrôlé qui se présente sous forme hybride, imprimée, numérique, digitale. Le jeune lecteur se retrouve donc face à un objet en pleine mutation qui lui demande de savoir trouver l'information, la situer dans un continuum immense, de l'évaluer en fonction de ses besoins. Le professeur de lettres est donc au cœur de la problématique. Il est le premier soutien de ce jeune lecteur du XXIe siècle en revenant à l'étymologie du mot « texte ». Il doit en effet lui apprendre à tisser des liens entre ses connaissances et la culture scolaire, entre ses pratiques et celles de l'école. Le regard sur la lecture n'est donc pas si pessimiste que cela, mais nécessite de s'interroger sur ce que nous appelons « lire » et sur la didactique que nous mettons en place. Les élèves ne rejettent pas le papier ou le texte littéraire, mais ils veulent que le lien entre leur pratique culturelle et celle de l'école soit réinvesti de sens.
Les souris.
Si dans la rubrique précédente, Philippe a souhaité placer le jeune lecteur au centre de son tableau pour en dresser un portrait en ce début du XXIe siècle, Clément et Angélique ont quant à eux décidé de leur donner la parole dans la rubrique « Ils témoignent ». Car cette fois encore, derrière ce pronom « ils » se profilent bien nos élèves. Tout d'abord, Angélique, toi qui enseignes au collège, tu t'es intéressée aux plus jeunes de nos lecteurs, ceux du collège précisément. Et comme Philippe, tu n'as pas voulu te limiter à de simples impressions.
Non, pas du tout. Je voulais faire écho à ce qui vient d'être présenté. Avant de mener mon enquête, j'avais moi aussi l'impression que mes élèves ne lisent pas comme moi, professeur, et qu'ils ne lisent pas non plus comme je lisais quand j'avais leur âge. Mais je voulais un petit peu dépasser cette première impression. Et finalement, ces différences de lecture, est-ce qu'elles sont aussi importantes que l'idée que je m'en faisais? Alors, ça a été tout simple, je les ai interrogés. Mais pour leur poser la question, je voulais vraiment avoir un avis global sur leur impression lecture. Et j'ai créé un sondage sur Google Drive. Je remercie d'ailleurs mes collègues de l'avoir relayé auprès de leurs élèves. Et j'ai pu recueillir les réponses de 198 élèves précisément sur le niveau 4e et 3e. Je les ai interrogés sur 14 questions. Sur les premières questions, l'outil informatique n'est pas apparu. Les questionnaires étaient anonymes, ce qui a favorisé, je pense, pour beaucoup d'élèves, la sincérité des réponses. Et je n'ai recueilli effectivement que très très peu de réponses farfelues ou clairement provocatrices. Les élèves ont vraiment joué le jeu et ont trouvé très positif qu'un enseignant qui leur impose des lectures soit également sensible à leur pratique véritable. Alors qu'en est-il de sondage? Tout d'abord, très très peu de surprises quand j'ai vu les résultats des premières questions. Pour une écrasante majorité, 169 élèves, donc parmi les 98, ces élèves lisent avant tout pour découvrir une histoire. Donc la lecture semble rester aussi une activité relativement régulière pour les deux tiers des élèves, mais associée tout de même à l'obligation scolaire ou parentale. Selon 154 d'entre eux, ce qui se confirme quand ils citent l'œuvre la plus longue qu'ils aient lue. La moitié d'entre eux font référence à une œuvre étudiée depuis la rentrée de septembre. Une autre moitié lit pour se détendre et fait référence à de nombreuses œuvres jeunesse, plus qu'appartenant à une littérature classique, ces œuvres étant présentes au CDI pour certaines d'entre elles. D'autres œuvres semblent plutôt axées sur des histoires vraies. J'ai d'ailleurs découvert que Justin Bieber et les One Direction avaient publié une biographie. Est-ce qu'ils sont pour autant auteurs reconnus? Je vous laisserai juger. Plus sérieusement, j'ai ressenti une inquiétude quand même quand je me suis aperçue que 20% d'entre eux avouent ne pas lire du tout. Et 15% avouent ne jamais avoir lu de romans, c'est-à-dire pas même ceux que je leur avais amoureusement distribués. Toutefois, à partir du moment où je leur demande de se positionner sur des formes de lecture particulières, certains se découvrent finalement lecteurs. Ce qu'ils préfèrent lire sont en tête les SMS et les mails, pour 130 d'entre eux, puis les blogs et les sites perso, 109, avant les romans, 94 tout de même. 182 élèves, ont ainsi accès à Internet, mais ils ne conçoivent pas de prime abord que le temps qu'ils consacrent à cette activité soit de la lecture. Si 10 élèves, par exemple, avouaient lire plus de 3 heures par semaine au début du questionnaire, ils passent de 10 donc à 53 à être lecteurs sur Internet. Les élèves qui sont passés dans ce groupe de lecteurs réguliers sont ceux qui lisaient généralement moins d'une heure, ou alors pas du tout. Alors parmi tout ça, qu'en est-il de l'outil numérique? La moitié d'entre eux ont déjà utilisé une tablette pour lire. Toutefois, leur préférence concernant leur format de lecture est très très contrastée. Premier groupe d'élèves, plutôt majoritaire, et plutôt traditionnel. Ils évoquent le plaisir sensuel du papier, le bruit des pages, le toucher. La lecture papier est plus authentique, écrit un élève. On se plonge plus facilement dans un livre, reprend un autre. Et plus intéressant, on peut voir le nombre de pages qu'il reste à lire, ce qui sous-entend ici une pratique de lecture suivie. En bref, le support papier est le support de la lecture longue dans laquelle l'imaginaire peut se développer. À l'inverse, les pronumériques mettent en avant surtout des aspects pratiques, ludiques, la possibilité de zoomer, d'aller chercher la définition d'un mot non compris sur Internet, mais ils contrebalancent tout de même leurs préférences par des critiques concernant le manque de confort visuel, le problème d'éclairage notamment. Le point d'accord sur l'outil numérique reste la modernité. Ils trouvent que lire avec une tablette ou sur un ordinateur, c'est quand même plus stylé, c'est plus swag. L'outil semble se substituer au contenu. C'est beaucoup plus de notre génération que des livres anciens. On lit des choses qui nous intéressent. On a moins la sensation de lire. Certains échappent donc au côté institutionnel, scolaire et obligatoire de la lecture. Ils revendiquent une appropriation d'un écrit qu'ils pensent être à leur image. On rejoint, chose assez peu nouvelle, des choix adolescents, une volonté affichée de s'approprier ce qui met à distance les parents. En tout cas, tous semblent concernés. Tous les élèves ont souhaité répondre à ces questions et arrivent à en parler avec un certain recul. Il s'agit moins pour eux de préférence que de différence de lecture. Ils ne considèrent en aucun cas qu'il s'agit du même acte de lire. Et je vous livre ainsi à ce sujet le témoignage de deux professionnels, un professeur documentaliste et une libraire qui confirment cette spécialisation pratique. Marie Joumier, tout d'abord, nous rappelle qu'un lecteur reste avant tout un lecteur, quel que soit le support.
Ça me heurte un petit peu, bon, mauvais. Moi, j'ai pas du tout envie de poser un jugement comme ça, mais pour répondre à bon lecteur, c'est le lecteur qui sait trouver ce qu'il a envie de lire au moment où il a envie de lire, qui sait trouver tout seul. J'ai des élèves qui viennent ici qui ne vont lire que du magazine, par exemple. Ça me dérange pas, moi. Mais par contre, s'il a envie de lire autre chose, il peut le trouver aussi. Ils sont au collège 4 ans ou 5 ans. Et leur pratique peut évoluer dans cette période. C'est un petit peu ça, mon métier. C'est de leur faire des propositions régulièrement et de leur permettre de diversifier petit à petit leur lecture. Je crois que le lecteur, il est très libre. Il faut qu'il soit très libre. Mmh. Effectivement, il y a une demande pour tout ce qui est imaginaire ou fantaisie. Je comprends cette demande-là. Comme s'échapper d'une réalité qui peut être pesante. Ils sont aussi en train de se fabriquer à l'adolescence. Donc ils ont besoin, et surtout en s'échappant, de garder quelque part les pieds sur terre et de savoir que c'est dans ce monde-là qu'ils vivent. Donc la lecture miroir, elle existe toujours beaucoup. Alors, est-ce que les TIS, on pourrait tourner la question comme ça, vont leur permettre de devenir des lecteurs? Eh bien alors là, moi je crois pas du tout. Je pense que justement ces élèves-là qui n'arrivent pas à lire, ils n'arrivent pas à lire le roman parce qu'ils n'ont pas d'image. Ils construisent pas l'histoire au fur et à mesure de leur lecture. Alors déjà qu'ils n'ont pas cet accès à leur imaginaire, je crois vraiment pas que le support informatique qui est complètement dématérialisé leur permette de construire ça. On peut proposer une activité qui ne ressemble pas trop à une lecture classique pour amener vers. Moi, je fais tout à fait confiance à l'art qui va se saisir de ces nouveaux médias pour pouvoir inventer d'autres choses. Mais dans ce cas-là, je serai lectrice, là aussi, de ces nouveaux genres. S'il y a un échec scolaire dans leur tête, ils sont non lecteurs. Ça, il faut le déconstruire aussi, cette image qu'ils se sont faite d'eux-mêmes, de s'autoriser à rentrer dans son livre. Peut-être que les écrans peuvent donner un éclairage là-dessus. Ou en tout cas, la mise en page, si on pense au magazine, qui évolue énormément en suivant justement ce qui est proposé aux jeunes sur les écrans avec ces fenêtres qui s'ouvrent. Et donc, en fait, qui empêchent de soutenir une activité, une seule, pendant longtemps. Je ne suis pas du tout pessimiste. Je vois des élèves qui ont envie de lire. On est un lecteur ou pas un lecteur. Si on a cette habitude-là, on restera dans la lecture.
Qu'est-ce qui décide effectivement de la lecture pour un adolescent? Et en quoi le numérique influence-t-il les pratiques? C'est Angélique Benoît, qui dirige la librairie Jean de la Lune, qui nous propose ainsi son éclairage.
Les lecteurs adolescents, généralement, sont sur tout support. C'est-à-dire que les lecteurs papier sont aussi des lecteurs de technologie et des consommateurs de technologie, jeux vidéo inclus. Connexion, discussion dans des forums de lecture, C'est très drôle aussi. Pas que, mais entre autres, moi, dans les discussions que j'ai avec eux, les forums de lecture sont présents, où ils vont se donner des avis et se donner des conseils entre eux. C'est sûr que le temps de lecture papier chez certains a diminué. Après, il faut savoir que le meilleur ami de la lecture, à un moment, pour déclencher ce processus d'être lecteur, c'est l'ennui. Ça a toujours été l'ennui. Et une fois qu'on est lecteur, on ne s'ennuie plus jamais de sa vie. La lecture papier d'un livre de littérature de la page 1 à la dernière page, quel que soit le nombre de pages, c'est quelque chose qu'ils ont perdu en usage ou qu'ils n'ont pas acquis. Leur temps est vampirisé, ils ne s'ennuient plus. Le numérique, en plus, c'est quelque chose qui absorbe beaucoup. Je parle d'expérience, hein. On se dit, mince, où est parti ce temps? On se sent bien dans un livre parce qu'il répond, il nourrit. La lecture doit nourrir. Si la lecture nourrit pas, il n'y a aucun intérêt à lire. On a le droit d'être un bon lecteur qui aime que les nouvelles. Que les textes courts qu'on finit en une heure et demie, et on a notre film qui s'est déroulé sur une plage courte de temps. La liseuse peut avoir un usage intéressant. Les retours qu'on a sont quand les enfants ont des liseuses, ils veulent des livres papier aussi. C'est-à-dire qu'un livre qu'ils ont lu sur liseuse qui leur a beaucoup plu, ils vont demander qu'on leur offre l'exemplaire papier. Donc il y a bien un rapport à l'objet qui est différent. Il y a un usage sur le numérique qui n'exclut pas le livre papier. Moi, je pense que la dématérialisation pourrait servir plus à faire des tests. J'aime pas. Et si j'aime, éventuellement d'acheter. Dans les discussions qu'on a avec les lecteurs, les gens qui, à l'heure actuelle, sont les clients des librairies, ils se voient pas abandonner complètement le papier. Les adolescents, c'est pareil. Ils n'excluent pas, peut-être moins que les adultes, ce support liseuse. Pour eux, c'est pas possible parce que le livre papier, c'est un objet. Il peut être très beau, il peut être plus simple. C'est pas la même chose. J'ajouterais une chose sur les liseuses. Ce que je vois justement dans ce fameux passage d'un lecteur à la lecture complètement autonome, c'est que la liseuse est un objet de bon lecteur. Parce qu'on ne voit pas le début du livre, on ne voit pas la fin du livre. Et pour un jeune qui n'est pas lecteur, mais même un grand seconde qui n'est pas lecteur, pouvoir dire « Yes ! Je suis arrivée au bout de mon livre, il n'y a plus de page derrière, je le referme, il est lu », c'est une victoire. Donc une liseuse où il y a des centaines et des centaines de titres qui peuvent s'enchaîner à l'infini, même s'il y a toutes les fonctions multi-support, on peut rouvrir le texte, on est à la bonne page, etc. Ça doit être mais désespérant pour un non-lecteur, parce qu'il ne verra jamais le bout de sa liseuse. On voit le nombre de pages, on avance dans la lecture, on voit le marque-page déroulé, à un moment, on ferme le livre, il est fini. C'est un geste important. Et on va prendre confiance en soi dans la lecture.
Même si leur avis n'est pas univoque, qu'il s'agisse des adolescents, des professionnels, nous mettons tous en avant une nette évolution déjà très ancrée dans la pratique de la lecture, qu'il s'agisse donc du support papier ou numérique. Une spécialisation dans la position et dans la compétence de lecteur que nous adoptons par rapport au support choisi.
Après cette enquête pleine d'enseignements menée par Angélique à propos de ses élèves de collège, toi Clément, tu souhaites plutôt orienter notre attention vers leurs aînés, ceux qui poursuivent leurs études au lycée. Et j'ai bien l'impression que tu as apporté avec toi quelques statistiques un peu préoccupantes.
En effet, Serge, je crois qu'il est nécessaire de commencer par rappeler quelques faits. Selon un sondage TNS Sofres paru en 2009, le nombre de petits lecteurs progresse. Alors, ce qu'il faut entendre par nombre de petits lecteurs, c'est les lecteurs qui ne lisent qu'entre un livre et cinq livres par an. Et ces lecteurs-là passent de 24 à 39% entre mars 81 et 2009. Tandis que le nombre de grands lecteurs, donc ceux qui lisent, qui liseraient plus de 5 livres par an, diminue quant à eux de et passe de 42 à 35%. En dehors de ces considérations statistiques, dans mon lycée, un seul élève de la classe de première L se définit comme un grand lecteur. Alors je ne sais pas si on peut faire une généralité à partir de cette observation concrète, mais il n'empêche que ça m'a interpellé.
Et alors, comment est-ce qu'on peut expliquer ce phénomène ?
Alors, selon William Marx, qui est un chercheur universitaire français, il existe le phénomène de la dévalorisation de la littérature. Il explique en effet, dans son ouvrage « L'adieu à la littérature », que beaucoup de lecteurs ont jugé que la littérature n'a plus beaucoup d'intérêt à partir du moment où elle se désintéresse du monde matériel. Cette pensée est notamment due à certains mouvements littéraires, je pense au mouvement du Parnasse, à l'art pour l'art. Et d'autre part que la littérature est dangereuse lorsqu'elle s'en soucie trop. Et cette pensée est notamment due aux deux guerres mondiales, selon William Marx. Et a notamment fait dire au philosophe Adorno que écrire de la poésie après Auschwitz est barbare. Donc voilà, la littérature est en fait prise entre ces deux feux. Et on peut aussi expliquer cette notion de dévalorisation par un certain élitisme français qui peut sembler contre-productif et qui pousserait, je pense, certains professeurs à ne pas s'adapter assez aux besoins culturels des élèves. Victoire, qui est une grande liseuse de première scientifique, l'explique ainsi.
Peut-être, je pense que souvent on dénigre la lecture qui est plus, pas populaire, mais plus commune, c'est-à-dire les romans fantastiques, tout ce qui peut être livre comique, etc. Et je pense que c'est quand même intéressant d'en lire, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se contenter de lire les classiques, parce que même si on dit que ça instruit, il faut quand même avoir une lecture assez variée, et si on n'a pas, il manque quelque chose, même si c'est quelque chose de très intellectuel. Et il faut parfois se contenter de lire un livre qui est banal, enfin pas banal, mais qui n'est pas élevé.
Je me trompe peut-être, mais j'y vois une certaine forme de critique de l'élitisme en fait français.
C'est vrai.
Est-ce que c'est ça ou...
Il y a une certaine forme, pas vraiment grande critique, mais je pense qu'il faut arrêter de se dire que les personnes qui lisent uniquement des classiques sont des personnes intellectuelles et des personnes qui sont élevées dans le rang social. Non, il y a pas du tout. Si on peut se contenter de lire de temps en temps un livre pour adolescents, un petit livre d'amour, quelque chose comme ça, eh bien c'est intéressant aussi et ça permet de prendre un autre type de plaisir.
Enfin, il faut aussi tenir compte, je crois, de l'influence du milieu social dans lequel grandit l'élève. Emad, qui est un lecteur de textes très courts, voire un non-lecteur, est très souvent rebuté par les œuvres longues, présente ainsi sa vision des choses.
Est-ce que vos amis ou des membres de votre famille lisent ?
Ah non. Peut-être un ou deux membres de ma famille, c'est tout, mais pas...
D'accord. Est-ce que vous voyez une relation entre les deux ou pas ? Est-ce que pour vous, le fait que les personnes auxquelles vous pensez lisent vous empêche de lire, ou à l'inverse, le fait que beaucoup de vos amis ou de membres de votre famille ne lisent pas ?
C'est peut-être ça, ouais, aussi, le fait que dans mon entourage, il n'y a pas beaucoup de personnes qui lisent.
D'accord.
Et alors, comment remédier à ces problèmes ? Comment s'extraire de ce déterminisme intellectuel, voire social et familial ? Finalement, Clément, comment donner ou redonner envie de lire ?
D'abord, je crois qu'il faut partir du principe de ce que je nommerais la pratique religieuse de la lecture. Alors, je tiens à rassurer les plus laïcs d'entre tous, je suis moi-même pas religieux, mais ce que j'entends par pratique religieuse de la lecture, c'est une pratique rituelle qui incite au recueillement, qui induit un isolement. Et cette pratique-là ne peut être mise en place qu'à partir du moment où l'on respecte certaines conditions matérielles. C'est ce que me disait Victoire, qui ajouta ensuite que le livre possédait même un caractère presque sacré.
Est-ce que vous attachez une importance à l'objet même du livre ?
Bien, je pense que c'est un objet qu'il faut respecter et ne pas dégrader, ne pas, je sais pas, déchirer les pages ou choses comme ça, parce que la lecture, pour moi, c'est une mémoire. C'est-à-dire que si jamais il y a un livre qui m'a marqué pendant, par exemple, une expérience douloureuse dans ma vie, quand je vais le relire, ça va me toucher, et si jamais il est abîmé, forcément, ça va me décevoir.
Ces rituels, me direz-vous, ne peuvent être mis en place qu'à condition de vivre dans un confort matériel certain. Cela dit, l'école peut aussi se substituer partiellement aux familles qui ne peuvent offrir ces conditions d'apprentissage. Lire un texte à la fin ou au début de chaque heure de cours en tant que rituel, cela ne prend que 5 minutes et permet de développer le plaisir. Et peut également permettre de mieux travailler en offrant une ouverture vers un thème proche de celui qui est étudié, ou de renforcer le travail d'un objet d'étude. Enfin, je crois qu'il faut bien avoir en tête qu'on ne naît pas avec un Montaigne ou un Baudelaire. Moi-même, j'ai commencé, je n'ai pas honte de l'avouer, par des Stephen King avant de lire des Maupassant et des livres Chair de poule avant ceux de Stephen King et même des oui-oui avant des Chair de poule. Je crois qu'il faut, et c'est nécessaire, désacraliser la littérature pour la rendre plus accessible à dimension humaine. Et puis, il faut également tenter d'utiliser au mieux les nouvelles technologies afin de montrer aux élèves que la littérature est un art qui est toujours en phase avec le monde dans lequel nous vivons. Après tout, quel parent ne remercierait pas le chimiste qui, pour faire prendre à son enfant un médicament efficace mais amer, lui aurait donné un goût de framboise ou de banane?
Est-ce que ça vous est déjà arrivé, ou si c'est pas le cas, est-ce que vous avez déjà envisagé de le faire, de lire sous forme numérique, des ouvrages numériques par exemple? Sur tablette ou...
Ouais,
vous avez déjà expérimenté ça? Ça vous plaît plus ou pas?
Oui, plus.
D'accord. Donc l'objet, en fait, a une incidence, selon vous, sur la lecture. D'accord. Qu'est-ce que vous avez lu sur tablette?
Bellamy.
Bellamy? Ouais. Vous possédez une tablette?
Oui, mais je l'avais lu sur mon téléphone. Je l'avais acheté sur mon téléphone.
D'accord. Et le fait de lire sur votre téléphone, ça vous plaisait plus que de lire...
Oui.
C'est vrai?
Ouais.
Ok.
Nous voici arrivés, chers auditeurs des souris et des lettres, à notre sixième rubrique, celle des sites du jour. Vous en connaissez maintenant le principe, nos collègues prennent leur casque d'explorateurs du web pour dénicher des sites permettant d'enrichir nos connaissances et nos pratiques d'enseignants. Et c'est Angélique qui reprend le micro pour nous faire découvrir Tacite, un site de remédiation présenté par ses auteurs comme un outil pédagogique permettant d'améliorer la compréhension des enfants en lecture, en particulier l'implicite des textes. Voilà qui est prometteur. Toi qui l'as testé, ce site, Angélique, peux-tu nous en dire davantage?
Oui, alors Tacite, c'est un site qui m'a totalement conquise, dans le sens où il s'agit d'un véritable outil pédagogique. Alors qu'est-ce que c'est? Ça n'a rien à voir avec l'auteur romain, le nom du site s'écrit sans le final, et sa signification fait référence à l'adjectif, ce qui est tacite et ce qui reste sous-entendu. Grâce à des exercices proposés, les élèves inscrits peuvent travailler ce qui est sous-entendu dans un texte, c'est-à-dire l'implicite. Tacite permet donc de travailler ce que nous appelons l'inférence. Quand nous évoquons au collège les problèmes de lecture, il s'agit moins de problèmes phonologiques que de problèmes de compréhension. En effet, en lecture, les élèves apprennent assez rapidement à repérer l'information lorsqu'elle est explicitement formulée. Ils peuvent parfois recopier textuellement des données pour répondre à des questions de compréhension qu'on leur pose. Ils ont beaucoup plus de difficultés à dégager l'information lorsqu'elle est implicite, lorsqu'ils doivent lire entre les lignes, bref, lorsqu'ils doivent inférer. Et moi, en tant que professeur, vraiment, je peiner à faire travailler ce type d'opération logique permettant d'expliciter une information implicite. Souvent, j'avais même du mal à repérer leurs problèmes. Leurs problèmes varient beaucoup selon les élèves. Pour certains, il s'agit de la chronologie. Pour d'autres, cet implicite repose plutôt sur la lecture des pronoms, sur la relation des causes-conséquences. Parfois, un problème de vocabulaire plus spécifique peut les perdre totalement. Enfin bon, la liste n'est pas du tout exhaustive. Quand je trouvais certains exercices, en plus de ça, souvent ils me paraissaient beaucoup trop enfantins. Alors les élèves étaient un petit peu vexés quand je leur proposais. C'était un petit peu dévalorisant pour eux de se retrouver mauvais lecteurs et d'avoir en plus des livres pour petits enfants. Alors, du coup, j'ai testé Tacite et ça répond à tout cela. Il varie les niveaux d'inférence, il valorise l'élève, il complexifie le niveau d'exigence, il permet de différencier, et pour le professeur, il est simple, pratique dans sa manipulation, je ne lui trouve aucun défaut. J'ai d'abord créé un compte d'essai, ce que tout le monde peut faire, et je vous invite à le faire pour tester cette ressource. J'ai sélectionné pour ça des élèves que j'ai en troisième en remédiation lourde pour des problèmes de lecture importants. Tous ces élèves reconnaissent d'ailleurs ces difficultés. Ils ont tous été séduits. Tout d'abord parce que le site est hébergé par l'université de Rennes. Ça, mes élèves l'ont vu et ils ont considéré qu'il s'agissait d'une ressource sérieuse et valorisante. L'interface est très claire, le repérage très aisé. Une fois connectés, ils peuvent soit effectuer des évaluations, diagnostic intermédiaire ou final, soit s'entraîner. Une fois l'évaluation diagnostique effectuée, le site propose au professeur d'inscrire l'élève dans un groupe de niveau de lecture. Ces niveaux de lecture s'échelonnent des lettres A à J, ce qui reprend un petit peu les principes de littératie dans les pays anglo-saxons. L'évaluation de l'élève, pour vraiment l'inscrire dans le groupe, est très très fine. Tous les aspects de l'inférence sont testés. La lecture des résultats est très précise aussi. L'élève n'apparaît pas juste dans un niveau, mais sur un axe gradué à l'intérieur même du niveau. Pour situer l'élève, le site prend également en compte le temps de réponse de l'évaluation, ce qui n'est pas négligeable, effectivement, puisque ça prend en compte le temps de lecture de l'énoncé. Le professeur a accès au taux de réussite pour chaque question posée, et ça permet de retravailler plus spécifiquement certaines propositions en classe entière, si ces propositions ont vraiment été peu réussies. Exemple d'un entraînement sur lequel mes élèves ont beaucoup buté, par exemple, la consigne était chez les Martins, le cyclisme est une affaire de famille. Florent, 14 ans, en est déjà champion régional, comme son père l'a été, ainsi que le père de son père. Question posée, quel sport pratiquait son arrière-grand-père? Proposition 1, il ne pratiquait pas de sport. 2, le cyclisme. 3, je ne sais pas. 4, le texte ne permet pas de répondre, ce qui est la bonne réponse, dans la mesure où il n'est question à aucun moment de l'arrière-grand-père de Florent, mais de son grand-père. Et une lecture trop rapide amène l'élève à se tromper. Et mes élèves, en retournant voir la question, n'arrivaient pas à bien cibler leur erreur. Petit détail pratique aussi, possible par le site. On peut changer l'élève de groupe quand il le souhaite, même en cours de séance. Cette gestion est vraiment très aisée pour les entraînements. Le paramétrage est aussi facile d'accès, c'est très très appréciable. Donc mon bilan, les élèves ont progressé, ils s'impliquent réellement dans les exercices. Je faisais remarquer à une élève qu'elle faisait moins d'efforts lors des évaluations en classe, qu'elle se démotivait très vite, et sur un texte notamment parce que le vocabulaire était beaucoup plus, était aussi compliqué que celui sur le site. Et elle m'a répondu en classe, madame, vous ne me demandez pas de réfléchir, juste de répondre. Donc c'est vrai qu'il y a encore du chemin à faire pour amener les lecteurs à une lecture autonome beaucoup plus fine. Mais cette pratique vraiment du site, vraiment une pratique intelligente, fonctionnelle de la compréhension de texte, m'a séduite. J'en ai parlé à mes collègues et de ce fait, le collège est passé sur la version payante pour une somme tout à fait modique. Et nous avons inscrit également les PPRE passerelles en sixième. Et mes collègues qui l'ont testé sont aussi conquis que moi.
Eh bien, après un site consacré aux compétences liées à la pratique de la lecture, en voici un second, sans doute aussi formidable, dont les objectifs semblent davantage tournés vers le domaine littéraire. C'est Christelle qui nous le présente.
Serge, chers auditeurs, un site a retenu mon attention. Il s'agit d'Archives Zoliennes, un site qui peut aider nos élèves à entrer dans l'univers des Rougon-Macquart. Émile Zola est en effet un auteur étudié au collège, en quatrième. Et en seconde, dans le cadre de l'objet d'étude, roman ou nouvelle, réalisme et naturalisme. Mais il est parfois difficile pour nos élèves de comprendre cette œuvre. C'est pourquoi je vous propose d'écouter Olivier Lombroso, professeur des universités à Paris 3 Sorbonne Nouvelle et spécialiste d'Émile Zola, du naturalisme et de didactique, nous présenter ce site dont il est le cofondateur. Alors, bonjour Monsieur Lombroso, pouvez-vous nous présenter Archives Zoliennes?
Bonjour Madame. Pour cette invitation. Effectivement, le site des Archives Zoliennes est actuellement le seul site en France à faire converger un ensemble d'archives autour d'Émile Zola, de sa vie, de son œuvre et de la réception de ses romans. En plus, à cela s'ajoute un héritage de nature patrimoniale concernant l'affaire Dreyfus. Des sites sur Émile Zola, il en existe évidemment à travers la toile, mais l'originalité de ce site, je dirais, est à la fois la richesse de ces documents et en même temps leur qualité. En effet, ce site est un site scientifique. Même s'il est destiné au grand public, il n'est pas réservé qu'à un public évidemment d'experts, de spécialistes de littérature, il est ouvert au grand public, il n'empêche qu'il s'est donné un cahier des charges de qualité. De qualité et de quantité. Les deux, au fond, étant compatibles. Alors pourquoi la qualité? Parce que ce site est d'abord un projet ANR. ANR, ça veut dire quoi? C'est le site de l'agence. à l'Université Paris 3 et à l'ITEM, l'Institut des textes et manuscrits modernes, où existe une équipe très ancienne, fondée dans les années 70 par Henri Mitran, l'équipe Zola, spécialiste de Zola et du naturalisme. Alors, je dirais que ce site a donc un avantage, à la fois il pense l'archive, il ne s'agit pas simplement de déposer des documents de façon brute, ce site, je dirais, les organise, ce site les présente, en rend l'accès et le parcours possible pour un internaute, qu'il soit élève, enseignant ou tout autre. Donc je dirais que c'est ça l'originalité, hein, c'est d'avoir associé ensemble l'ITEM, centre du CNRS, Paris 3, une université, une agence de soutien financier, l'ANR, et évidemment la Bibliothèque nationale de France, qui est notre partenaire. Alors ce site, évidemment, je ne l'ai pas fabriqué seul, mais le projet, il y a à la tête, je dirais, à la PAGES, les professeurs des universités à Paris 3, et Jean-Sébastien Mac, je dirais, qui pilote la dimension technique, technologique, de la dimension numérique de ce site, et qui l'alimente aussi de sa réflexion. Voilà un peu rapidement planté le paysage.
Eh bien, merci beaucoup pour cette présentation exhaustive et fort intéressante, Monsieur Lombroso. Je me permets de vous poser cette deuxième question, puisque le thème de notre émission est de donner des outils pour donner le goût de lire. En quoi ce site peut-il aider nos élèves à mieux comprendre et apprécier l'univers zolien?
Alors, effectivement, je crois d'abord que ce site est important dans la mesure où il donne l'accès à un ensemble d'archives. L'œuvre de Zola est gigantesque. Il a écrit trois grands cycles, vous savez, les Rougon Macquart, les trois villes, les quatre évangiles, mais il y a à côté de cela les contes et les nouvelles, les documents critiques, une correspondance, etc. Comment faire quand on est un enseignant pour s'y retrouver dans cette forêt de documents? Le site Archives aide à la lecture parce que d'abord, il aide à accéder à un document. C'est-à-dire que vous trouverez sur le site un ensemble de rubriques qui constituent des banques de données. Par exemple, les œuvres de Zola avec les Rougon Macquart, le texte officiel de l'édition publié chez Charpentier. Vous pourrez faire des recherches lexicales dans l'ensemble de ces textes. Premier intérêt. Deuxième banque de données, l'iconothèque zolienne, ce qui correspond à peu près à 1500 documents dans le domaine de l'affiche, de la caricature, des cartes postales, du cinéma, des couvertures de romans, des dessins de la main de Zola, d'objets, de partitions, de peintures ou de photographies de Zola ou sur Zola, ce qui correspond à un corpus extraordinaire que vous retrouvez synthétisé, rassemblé sur un seul et même site, estampillé par le CNRS. Alors je dirais que aider les enseignants à fabriquer des séquences sur Zola, aider les élèves à s'enrichir au contact de cet auteur, c'est déjà rendre possible l'accès aux archives. Et ça, c'est une première chose. La seconde chose, je dirais, c'est l'intelligibilité que nous donnons à l'archive. C'est-à-dire que chacune de ces banques de données est accompagnée de chapeaux explicatifs rédigés par votre équipe, permettant à tout public de comprendre, je dirais, l'origine des documents, de le recontextualiser dans l'époque, éventuellement de flécher quelques événements contemporains, bref, de donner des clés pour interpréter, comprendre le document que nous avons sous les yeux. Et vous savez que c'est absolument essentiel, qu'une image mérite d'être décodée, elle n'est pas naturellement accessible, c'est un objet culturel, il faut donc le contextualiser. C'est ce qui rend aussi ce site, scientifique. Voilà. Après, on pourrait aller plus loin, mais je vous laisse avancer dans votre questionnaire.
Merci beaucoup. C'est vrai que on voit que votre site est à la fois un site de ressources et nous avons vu que c'était aussi un laboratoire pédagogique. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus?
Absolument. Je dirais que je suis assez attaché à cette dimension-là. Qu'est-ce qui peut faire la différence entre le site Archives et d'autres sites excellents sur les auteurs, les écrivains, les archives d'autres écrivains, etc. Qu'est-ce qui fait la différence? Évidemment, des contenus, un auteur, un imaginaire, un univers, mais aussi la relation que nous entretenons à ce site, à savoir que pour nous, il est un outil. Il n'est pas une finalité en lui-même. Il n'a de sens que parce qu'à un moment donné, une personne, un cerveau, une sensibilité, s'approprie le document. Notre travail, à côté du site Zola en lui-même, est d'avoir constitué j'ai souhaité fonder cette collaboration assez étroite entre un laboratoire de recherche et une institution de l'éducation nationale. Je vous avoue que je suis très heureux de ce partenariat ISMIS, car il est très fécond. Autour de cette petite équipe d'une dizaine d'enseignants, nous essayons d'envisager la façon dont le site Archiz peut être intégré aux séquences pédagogiques des professeurs au collège, au lycée, dans les filières générales, autant que dans les filières techniques. Et je vous avoue que les résultats sont très intéressants, parce que les professeurs nous font remonter des avis, des commentaires sur l'usage possible du site, et nous amènent parfois à modifier d'ailleurs l'organisation des documents, à être plus explicites sur tel ou tel parcours, telle ou telle navigation, tel ou tel document. Donc je dirais que c'est absolument essentiel. Et le grand plaisir que nous avons, c'est de voir que les élèves s'approprient le site. Non pas parce que le site est formidable, génial, non, parce que ce site, au fond, est pensé dans son appropriation par les professeurs et par les élèves. Et je crois que ça, c'est un aspect essentiel du travail de pédagogue, mais aussi du travail du chercheur, s'il veut aller jusqu'au bout du processus de transmission sociale des archives et donc de notre patrimoine.
Eh bien, en tout cas, merci pour cette explication. Je terminerai en fait cet entretien sur une question qui permet d'anticiper sur le prochain thème de l'émission numéro 15, émission suivante. En effet, l'idée est d'aider nos élèves à mieux écrire. On voit dans votre site que le travail préparatoire de Zola est mis en évidence. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur la fréquentation du site comme outil, comme aide pour nos élèves dans une perspective d'écriture cette fois-ci?
Oui, alors écrire, lire, dire, c'est bien que ce sont trois compétences qui se croisent et s'entre-nourrissent évidemment. Il n'empêche que l'écriture a un statut particulier par rapport à ce site et par rapport aux activités pédagogiques, voire aux activités de recherche en didactique de la littérature que nous pourrons faire et pour lesquelles je suis personnellement très impliqué. Au fond, l'idée est la suivante. Il existe chez Zola une manière de pointer des formes d'écriture qu'on utilise assez peu à l'école, de façon générale avec un grand E. Que ce soit à l'école élémentaire, que ce soit au collège, que ce soit au lycée. Quel est ce constat? Il est le suivant. Très souvent, on fait écrire les élèves dans un cahier de brouilleux. Très souvent, lorsqu'un élève n'arrive pas à écrire, on lui dit « commence par faire un brouillon, commence à écrire, cela viendra en écrivant ». Je dirais que cette démarche-là, qui peut paraître une démarche naturelle et totalement légitime, et elle l'est, est en fait un choix culturel. Et la critique génétique nous le dit, nous le démontre. Il existe chez les écrivains des formes d'écriture qui ne partent pas sur cette logique-là d'une écriture in medias res, c'est-à-dire d'un scripteur qui se lance tout de suite dans l'écriture d'un brouillon pour en faire une première version, une deuxième, et ainsi de suite. Car il existe des écrivains, dont Zola fait partie, qui, préalablement, ont besoin d'un ensemble de documents préparatoires. Alors, ça peut être des documents, je dirais, de nature créative, une ébauche, un scénario, mais ça peut être aussi des documentaires, des listes, des fiches, des notes d'enquête, voire des croquis, des dessins, qui peuvent être à la limite soit documentaires, soit fictionnels. Alors, j'ai appelé dans quelques articles cette façon de travailler le pré-rédactionnel, et notamment du point de vue de l'enseignement, une didactique du pré-rédactionnel, en se demandant si cette façon de travailler chez les écrivains peut avoir un sens, une portée et une utilité si on le transpose à l'école, au collège et au lycée. Et bien effectivement, nous nous rendons compte à travers certaines expériences que nous menons qu'il peut être extrêmement stimulant pour certains élèves, dans certaines situations avec certains projets, d'utiliser des démarches de nature pré-rédactionnelle qui vont en quelque sorte déployer le processus d'écriture avant d'entrer dans la phase rédactionnelle. Alors ça, c'est quelque chose d'assez neuf, et je dirais que c'est quelque chose qui dépasse évidemment Zola, car Zola n'est pas l'inventeur du pré-rédactionnel, ni d'une démarche d'anticipation, ni d'une démarche de projet, mais en tout cas, il en incarne une certaine réalisation. C'est pour ça qu'à mon avis, le site Archiz vient nourrir cette fois-ci une démarche d'une étude anthropologique du projet d'écriture qui va bien au-delà de Zola, du roman au XIXe siècle, d'un genre, d'une époque et d'un auteur. Cela étant, je le redis, Archise et Zola nourrissent, illustrent, incarnent une forme de démarche très rédactionnelle.
Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Lombroso, pour toutes ces explications. Vous nous avez vraiment donné envie de nous rendre sur ce site avec nos élèves et nous espérons pouvoir vous donner, évidemment, d'autres pistes pour enrichir votre site. Un grand merci.
Et je vous remercie, Madame Delas. Au plaisir pour nourrir la réflexion et éventuellement construire aussi de nouvelles collaborations. À très bientôt.
Au revoir.
Eh bien voilà, chers auditeurs, ce dernier appel sonore nous informe que le micro va bientôt se taire, et nous avec, ce qui n'est pas toujours une mince affaire. D'ailleurs, nous reprenons très prochainement du service pour aborder cette fois les enjeux de l'écriture dans une émission qui posera la question « Comment combiner écriture manuscrite et écriture numérique du primaire au supérieur ?» En attendant, vous pouvez toujours écouter et réécouter cette 14e émission en entier ou par rubrique sur le site de la web radio de l'Académie d'Orléans-Tours. Vous pouvez aussi enrichir cette écoute grâce aux documents qui l'accompagnent. Vous pouvez enfin garder un contact privilégié avec des souris et des lettres grâce à notre page Facebook. Il ne me reste donc plus qu'à vous remercier pour votre fidélité et à vous dire à très bientôt sur notre web radio.